rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaud Dautuil au micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Et pendant tout ce mois de mars, nous sommes accompagnés par Mgr Gardès. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Vous êtes évêque d'Auch et donc pendant ce mois de mars, nous discutons avec vous de la question du dialogue interreligieux. La semaine dernière, nous avons commencé à planter un petit peu le décor de cette déclaration Nostra Aetate, que nous invitons les auditeurs à relire. Elle a le mérite d'être très courte, elle fait 3 pages. Et elle a le mérite aussi d'être d'une immense actualité. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Alors prenons un petit peu avançons dans la lecture de cette déclaration. Pendant des siècles, les chrétiens se sont battus, il n'y a pas d'autre mot, avec les musulmans, hein, la conquête de l'Espagne, les croisades, voilà, on a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. Or, le texte, Nostra Aetate, souligne les proximités, et notamment l'adoration d'un Dieu unique qui nous est commun. Les pères conciliaires nous poussent ici à rechercher ce qu'on a de commun avec les musulmans, comme par exemple le souci de la justice sociale, les valeurs morales, la recherche de la paix et de la liberté. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui nouer ce dialogue avec les musulmans dans ce contexte de peur, en fait, qui est le nôtre?
Alors, de quoi avons-nous peur? Prenons le temps de nous arrêter un peu sur cette... Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel, mais qui en même temps se comprend très bien à partir d'événements, et qui sont en particulier des événements de la violence et du terrorisme. Le terrorisme n'est pas réservé à nos amis musulmans. Le terrorisme, c'est le terrorisme qui a des fondements de haine, de violence et de volonté de destruction. Et justement, à ce niveau-là, il me semble important de rappeler la première phrase qu'il y a dans Nostra Aetate pour ce qui concerne les musulmans. Voilà ce que disent les pères conciliaires. L'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Donc, pour pouvoir engager au moins une rencontre avant qu'il y ait véritablement un dialogue,
oui.
Ça suppose qu'on se rencontre,
oui.
Mais ça suppose qu'on aille au-delà de nos peurs et qu'on se rencontre dans la confiance.
Oser la rencontre,
oui,
c'est la première étape.
Il faut oser la rencontre et puis ne pas avoir peur. Ce sont des humains. Personnellement, j'avoue, quand je suis dans des contextes où je suis plutôt avec une boule au ventre, tellement je peux être inquiet par rapport à des situations, mais je me dis, mais les personnes que je vais rencontrer, ce sont des créatures de Dieu. Donc ce que Dieu nous propose comme rencontre ne peut aller que dans le sens de la croissance humaine et fraternelle. Donc ça suppose, ça c'est la première condition, c'est un climat de confiance et de respect. Première chose. La deuxième chose, c'est de partir de liens humains. C'est-à-dire qu'il faut commencer par aborder des questions qui sont de l'ordre dogmatique.
Oui.
Ça sera engagé dans un dialogue. Et j'insiste sur la rencontre qui doit précéder le dialogue. Si on attaque tout de suite le dialogue, on risque de se retrouver avec des oppositions très fortes, et en particulier pour nous chrétiens, ce que nous appelons le mystère d'incarnation. Ça, c'est évident, Allah est tellement le tout autre qu'on se retrouve avec une situation qui rend impossible une compréhension du mystère de l'incarnation.
Il ne faut pas chercher absolument à faire comprendre à l'autre ce que c'est que l'incarnation.
Justement, le pape François insiste, à juste titre, mais déjà Benoît XVI le faisait, sur l'évangélisation n'est pas du prosélytisme.
Oui.
De vouloir imposer une position qui peut être perçue sur le plan humain comme une position parmi d'autres, même si pour nous, effectivement, on est convaincu au niveau de notre foi, mais ça suppose qu'il y a une liberté d'écoute en nous-mêmes, d'une parole qui vient me déranger. Alors c'est sûr que l'attitude à avoir dans une rencontre avec les musulmans que l'Église regarde avec estime, hein, ça c'est le concile qui nous le rappelle dans sa déclaration, dans Nostra Aetate de notre temps, eh bien dans ce contexte-là, il est très très important qu'il y ait le respect et l'écoute.
Et cette rencontre, comment est-ce qu'elle peut se faire? Parce que dans ma vie de tous les jours, je croise des personnes qui sont de religion musulmane, mais ce n'est pas pour autant que je vais volontairement aller vers elles et ouvrir un dialogue. Où est-ce que je peux m'inscrire? Dans quoi est-ce que je peux m'inscrire pour cette première étape de cette rencontre?
Les rencontres qui marchent le mieux, c'est celles qui se font de manière naturelle. C'est-à-dire que ce soit sur le marché, on a une communauté religieuse, nous, qui est implantée là au quartier du Garros, où il y a une communauté musulmane importante.
Oui.
Eh bien, ces sœurs sont connues de tout le monde, les sœurs du Garros. Elles ont un contact avec les familles musulmanes, mais ça se fait de manière naturelle. Et seulement après, on peut aborder d'autres questions, mais qu'il y ait une approche qui soit une approche humaine, de respect, d'amitié, d'invitation.
D'invitation.
Oui.
Invitation à aller quoi? Au-delà du simple dialogue sur le marché?
De l'échange sur le marché, parce que après une invitation peut devenir.
C'est quoi une invitation?
Un lieu de dialogue.
C'est quoi une invitation? Ça ressemble à quoi?
Ben c'est la volonté de vouloir rencontrer l'autre.
Mieux se connaître pour moins se craindre.
Et de mieux se connaître. Et puis alors, le troisième point qui me paraît important, c'est de partir de valeurs qui sont des valeurs communes. J'avais été invité il y a quelques années pour l'inauguration de la mosquée. Et on m'avait donné la parole à l'intérieur de la mosquée.
Une mosquée à Auch, donc
qui a été inaugurée, oui, au quartier du Garros.
Oui.
J'avais été invité. Et dans ce contexte-là, à l'intérieur de la mosquée, on m'a demandé, on m'a invité à prendre la parole. Et je suis parti des cinq piliers de l'islam. Et puis j'ai insisté bien sûr sur la dimension de la charité, de l'aumône. Alors l'aumône, dans notre société, ça donne l'impression qu'on est supérieur aux autres. Bon, mais il faut retrouver le terme étymologique, le sens premier. Donc on le dit tout simplement, c'est une volonté de partage avec ceux qui n'ont pas. Mais à partir de points qui sont des points communs, ça permet d'avancer. Et c'est seulement après qu'on peut aborder des questions de certains sourates du Coran qui expriment la violence. Combien de chrétiens s'emparent uniquement de ces sourates et oublient le reste des piliers de l'islam.
Et pour nous, justement, qui venons de rentrer dans le carême, dont l'un des piliers est l'aumône, qu'est-ce qu'on peut trouver de commun et comment est-ce qu'on peut imaginer une action en commune autour de l'aumône en profitant justement de ce carême? Qu'est-ce qu'on peut imaginer?
C'est de s'inviter. Ne pas avoir peur d'inviter à notre table un certain nombre de musulmans. Ça, c'est en sachant bien sûr les règles élémentaires là, au niveau de la nourriture.
Vous pouvez nous les rappeler peut-être?
Au niveau de halal. Bon, si vous mettez des fruits et des légumes, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
Bon.
Et puis si vous mettez des gâteaux au miel qui collent plein les doigts, ça m'est encore arrivé dernièrement avec des amis musulmans.
Ouais.
Et il y a un côté hyper sympathique. Et il y a un quatrième point, un quatrième chemin qui est riche, c'est la place de l'enfant. Donc si vous vous retrouvez à la sortie de l'école avec des familles musulmanes, ils parlent volontiers avec les enfants des soucis qu'ils peuvent porter. Ça, c'est j'avais rencontré une famille musulmane qui met ses enfants dans l'école catholique. Et je leur avais demandé, mais je ne veux pas être indiscret, mais pour quelle raison ça rend service? Et j'avais eu cette réponse absolument magnifique. Dans la société d'aujourd'hui, c'est la seule école où on n'est pas les seuls à parler de Dieu.
Ah oui.
Donc ce qui était intéressant comme point de repère, ce n'est pas parce que c'est une école catholique ou qu'il y a un avantage social, mais on parle de Dieu. Or, dans la société séculière d'aujourd'hui, la référence à Dieu a une transcendance. Là, on est perçu tout de suite et identifié à une religion précise, quelle que soit la religion. Et ça risque de fermer un échange et puis après un dialogue.
Mais c'est vrai que je vais peut-être surprendre nos auditeurs, mais nous savons que beaucoup de musulmans écoutent Radio Présence.
Oui.
Parce que c'est vrai que sur notre région, Midi-Pyrénées, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle de Dieu aussi du moment. Alors certes, c'est le Dieu des chrétiens qu'on évoque, mais oui, effectivement, ce sens de la transcendance, cette recherche de Dieu, elle nous est commune, cette adoration d'un Dieu.
Mes premiers contacts avec le monde musulman, c'est quand j'étais aumônier d'un lycée professionnel là, à Lyon. Et ceux qui venaient, il y avait à peu près la moitié qui venaient d'Azub de Benguette. Et puis j'étais étonné de voir que la moitié de ceux qui venaient à l'aumônerie, c'était des musulmans. Donc j'avais invité à une soirée les parents qui étaient venus. Et puis j'avais posé la question. Je me suis dit, attendez, moi je ne vais pas faire de prosélytisme. Il y a eu deux phrases d'un papa qui me reste, des années et des années après, mais qui me reste. Il a dit, mais de toute façon, vous parlez de Dieu, curé, vous parlez de Dieu, et curé, vous parlez de valeurs qui sont les mêmes que les nôtres, là, au niveau des piliers de l'islam. Donc, ce que tu leur dis, ça ne peut pas leur faire de mal. Ça m'est resté. Je me suis dit, tiens, on manque peut-être d'audace à certains moments. C'est-à-dire que la proposition de la foi, ça vous souvenez du texte de Claude d'Agence qui était devenu de proposer la foi de la part de la conférence des évêques de France, mais c'est Claude d'Agence qui était à l'origine, donc qui soulignait que la foi, justement, ce n'était pas du prosélytisme, mais que c'était à proposer. Donc proposer le Dieu d'amour auquel nous croyons et qui suscite la liberté de tout être humain.
Merci Mgr Gardès de nous avoir encore accompagnés aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à évoquer avec vous l'interreligieux.
Avec plaisir.
Rencontre avec nos évêques.